Une émission réalisée avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service général de l'audiovisuel et des médias.
This contest is scheduled for one fall with a 20-minute time limit. Introducing first from Italy, weighing 239 pounds, Salvatore Bellomo.
Profession catcheur. Une série radiophonique sur le catch de Wallifornie. Épisode number one. Salvatore Bellomo. Le catcheur aux mille vies.
Vous luttez sans rien parler. On y va.
Je vais mettre le chronomètre, sinon ils vont me tricher.
Allez, 3 minutes. 3 minutes de match.
Bon, je suis né à Ornu, au Borinage. Quand j'étais gamin, on regardait le catch, hein, de Roger Delaporte, Duranton, tous ces stars du temps en France, à Paris. Et j'aimais ça, on allait voir ça toutes les semaines. Et ce qui s'est passé, on a déménagé du Borinage à Liège. Et à Liège, il y avait la foire de Liège. Et j'ai un copain qui me disait qu'il faisait la foire dans le catch. J'ai dit, mais tu fais quoi? Moi, je lève la main dans le, hein, comme ça se passait dans le temps. Et j'ai dit, tiens, je vais quand même aller voir. On est toujours sur la foire avec des copains, là. On dit, on va aller sur la foire. J'ai dit, tiens, il y a mon copain qui est là, je le vois. On va aller. Mais j'ai peur parce que je ne sais pas c'est quoi le catch. Je ne sais pas. Alors, on y va. On va voir le catch. Je me mets vraiment derrière parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Et sincèrement, c'est comme si c'était hier. Je vois ces jeunes qui lèvent la main et qui font du catch. Hein, et j'ai dit, moi, je peux faire ça. Bien entendu, la semaine après, j'étais entre mon copain, là, on s'entraîne nous et tout ça. Et là, il m'a amené à la salle où il allait. Mais simplement, il fallait faire du culturisme pendant 6 mois. Parce qu'il voulait qu'on se bâtisse avant de faire du catch. Parce que dans le catch, on ne montrait pas le catch à tout le monde. Hein. Il fallait voir si on voulait vraiment. Alors, je m'entraîne. Faire du culturisme, mais ce n'est pas mon truc. J'aime pas trop ça. Le mec, il ne fait pas dans le culturisme, tu ne pourras pas monter dans le catch.
Descendez, 5, très bas, plus bas, non, et on reste en bas. Descendez le plus bas possible, restez. Allez, plus bas tout le monde, et ouais, on remonte. 1, encore, 5 fois, 2, 3, 4, 5, et on y va. Allez-y à votre trip, ensemble.
2,
ensemble.
On s'entraînait de 7h à 9h, et de 9h à 11h, c'était les 4h. Et j'arrivais toujours à me traîner, parce que j'étais toujours en retard avec mes exercices. Donc, à 9h, j'avais jamais fini. Je restais jusqu'à 9h30, 9h45. Alors, les catcheurs s'entraînaient. Alors, des fois, ils me voyaient là. « Viens un peu ici, toi !» Hop, j'allais là, ils me mettaient des manchettes. Mais ils me mettaient des manchettes vraiment dans la gueule, l'expression. Ils faisaient « pop, pop !» Mais alors, ils disaient « Tu te places mal, c'est ta faute !» Parce que lui, ils te la mettaient vraiment pour... Alors, c'était leur idée, c'était pour voir si tu voulais vraiment du catch, parce qu'ils me voyaient toujours traîner là. Hein.
Voilà. 35, 36, on est pas là, il y a trois coupes. 4 semaines sans venir, voilà, il change tout.
41, 42. Et puis un jour, un qui me dit, écoute, qui dit, on a besoin de quelqu'un sur la foire, ça t'intéresse? Faire quoi? Ben, tu vas être dans le public, tu vas lever la main et tu vas faire quelques minutes. Hein? Et il dit, ben, oui, il va falloir que celui-là. Elle m'a montré quelques prises. Et là, j'étais bien entendu, on m'a même sur la foire. Et là, il me dit, voilà, tu vas dans le public, je lève la main, je te donne le gant, et tu viens, tu fais quelques exercices. Ben, je suis généreux. Alors, hop, je lève la main, tout nerveux, pas, ah, jeune, qui veut faire? Il me donne le gant, boum, je monte, j'arrive là, mais je lutte avec, ah, que je connaissais, bien entendu, hein. Alors, l'autre, il tracasse pas, bon, on fait quelques minutes, papa, alors, ah, les dames et messieurs, hop, hop. Puis il me donne un petit gobelet, et il dit, allez dans le public, encouragez les jeunes. Et là, je me rends compte, quelques semaines après, ce temps-là, c'était 2000 francs belges par jour. C'est-à-dire, le patron nous payait un truc, plus les collectes. Donc, il y avait de l'argent, plus je m'amusais avec le 4. Et de là, ça, je faisais les foires de Liège, puis il y a eu, bien entendu, le Trocadéro de Liège, qui avait eu le 4 tous les lundis. Et là, il y avait le grand Vladimir, il y avait Victor Roland, il y avait... les Matassa, il y avait Lido Peduti, il y avait Michel de Bizère, surtout ces lutteurs qui étaient déjà un peu établis, mais on n'était pas acceptés parce qu'on était des catcheurs de foire. Donc j'ai fait un peu les foires, et j'allais voir le catch le lundi, au Trocadéro, mais je ne pouvais pas aller à la Souvenir, parce que je n'étais pas encore accepté. Les catcheurs qui étaient confirmés catcheurs de ce soir-là s'entraînaient à la Souvenir, mais ils n'acceptaient pas de nouveaux, parce que c'était un porte fermée de ce temps-là. Okay. Les catcheurs, ils ne vous montraient pas ce qu'on fait. Et alors, je vais au Trocadéro tout le temps, il y avait un promoteur, ça s'appelait Piet Brakeniers, et que lui, promoter le Trocadéro de Liège. C'était le lundi. Ce jour-là, on va au catch, il y a grève du cinéma, il y a grève de théâtre, il y a grève de tous les spectacles, tous les... je ne me rappelle plus ce que c'était cette grève-là, mais il y avait une grève de tout, sauf dans le catch. Donc la ville de Liège, les gens qui ne savaient pas, ils vont au cinéma, il n'y a pas de cinéma. Ben, ils voient quel catch. Et on va aller voir du catch. Donc, on a amené peut-être 100 personnes, 150. Et ce jour-là, la salle, elle est pleine. Trocadéro, il est plein à craquer parce que les gens sont là. Et le promoteur, quand il y a du monde, le promoteur, ils essaient de mettre un meilleur spectacle, bien entendu. Hein. Et le promoteur, il me regarde, il dit, t'as apporté tes affaires? Je dis, oui, c'est dans la voiture. Ben, va les chercher, qu'il me dit. Ben, il va chercher mes affaires, hop, il me donne un match. Et là, le promoteur, il m'avait pas encore vu, lui. Il dit, ah ben, c'est pas mal. Il dit, ben, écoute, quand j'aurai des dates à Anvers, je t'appelle. Mais de notre temps, il y a quelque chose que beaucoup ne savent pas du catch. Dans les années 50, le catch était plutôt vrai. Hein, c'était la lutte amateur, plutôt la bagarre. C'était... Alors, quand il venait dans une ville, il y avait le champion, par exemple, hein, américain, pour dire, il veut lutter avec vous. Ah, le promoteur dit, mais il faut qu'il gagne d'ici. Ah ben, ils allaient dans une salle, et ils se battaient vraiment. Alors, moi j'étais champion, hein, je disais, ben, tu sais me battre, je te laisse gagner. Mais ben, moi, tu ne savais pas me battre. Parce que l'autre était vraiment champion. Loutès, tous ces gens-là étaient des grands. Hein, Loutès, Patrick Conan et tout ça, c'était des noms que. Moi je les ai rencontrés au Mexique, entre parenthèses. Ben, alors il disait, ben, tu veux que je perds? Ben, ça te coûte plus cher. Alors c'est comme ça que c'est arrivé. Hein, parce qu'il y avait beaucoup des trucs comme ça dans le temps. Hein, on voit beaucoup dans les films, hein, les parcs carrés. Oui. Et le catch, c'était la même chose, mais le catch a enregistré qui croyait que c'était vrai. Alors quand un venait de l'extérieur, c'est comme ça qu'on faisait. Alors, c'était... années 50, ouais, il y avait vraiment les on appelait ça des policemen aussi, hein, par exemple, où il y avait, par exemple, Karl Gotch, grand catcheur belge, hein, qui était en verse. Ben, Karl Gotch, lui, on l'appelait le policeman. Et alors, il y en a un qui venait, qui voulait faire le malin, ben, si tu battes lui, tu peux passer. Ben, Karl Gotch, c'était un animal, c'était le stoppeur qu'on avait, il est arrêté là. On pouvait même mettre une fille champion, hein, il y a eu ça, mais on pouvait mettre quelqu'un qui n'était pas capable, parce qu'en général, tout le monde était capable, hein, mais si tu passais par Gotch, tu passais pas. C'était un peu ça, on l'appelait le policeman, lui. Et lui, c'était un monsieur qui a... Il était tellement amoureux du catch, du sport en lui-même, pas seulement le catch, que Vladimir me disait, quand ils allaient de cette histoire-là, dans les années 60, ils allaient en trait. Quand j'avais parlé de Liège, j'allais à Anvers ou à Ostende. Et bien, Karl Gotch, il était dans son monde. Il prenait, il dessinait des prises.
Certains font la collection de timbres poste ou de swatch. Certains regardent les feuilletons Nip Tuck, Starsky et Hutch. Certains dansent toute la nuit sur de la French Touch. Moi qui vous parle, je suis un mordu de catch. Certains étudient Trotsky, Lev Davidovitch. Certains arrêtent de fumer en mettant un patch. Mais moi j'arrêterai jamais d'être fan de catch. Gibson ou bien Gretsch. Certains boivent l'alcool de poire ou l'alcool de Quetch. Certains lisent la presse du cœur, Voici ou Paris Match. Mais moi je suis amateur de combat de catch. Jovovich. Certains dissertent et développent Spinoza et Nietzsche. Certains se disent royalistes comme Laurent Dutch. Mais moi c'est simple, je n'existe qu'à travers le catch. C'est simple, je n'existe qu'à travers le catch. Je n'aime que le catch. Ma vie c'est le catch. Emmène-moi au match de catch.
Le 27 novembre, le Spiridon de Charleroi, Russell Wells 2, le WrestleMania de Belgique, pour vous dire au bout, le peuple belge. Si vous êtes là, nous aurons le plus grand show que jamais on aura produit en Belgique. Et nous aurons un match 5 contre 5. Je vais prendre de mon côté qui reste Spike Dragon, Cobra, Jean le Boucher. Contre de l'autre côté, le jeune Batista, Fabrice le Bourreau, le Génie et le Sphinx. La jeunesse avec la vieillesse plein, le fort, les cinq costauds qui se croient de grands catcheurs. Et ça va tomber l'eau, il va être là. Et ça va tomber l'eau, il va donner de l'énergie. Et ça va tomber l'eau, il va mettre Spiridon. Il va faire sauter le plafond du Spiridon. Parce que vous, vous serez tous là pour dire que le catchphrase vit et restera là pour toujours. Ah, qu'est-ce qu'on allait faire quand ça le robot fait son splash.
Et là, M. Brackenhurst, lui, m'appelle, il me dit, voilà, j'ai des quelques dates à Anvers, peux-tu venir, tout ça, ouais. Il dit, j'ai un truc pour toi. Moi, quoi ? L'Angleterre veut un catcheur italien. Ah, et un belge, ouais. Donc, tu devrais aller en Angleterre le 1er janvier 1973, et tu seras le premier catcheur à lutter sans visa. Parce que l'Angleterre rentrait dans le marché commun de ce temps-là. Et pour aller en Angleterre, il fallait un visa et un permis de travail. Et là, moi, je suis le premier catcheur, hein, ça va, je fais historique. Premier catcheur, il y avait Frank Dunn, le belge, moi, l'italien, de ce temps, j'étais italien, je suis belge, d'un temps. Et Paco Ramirez, qui est espagnol, et Jackie Richard, qui était français. Donc, on est les quatre qui représentent le Benelux. Et là, on fait notre tournée, j'ai fait 27 jours en Angleterre. Et là, je découvre les grandes salles, hein, je vais au Royal Albert Hall, que je ne savais pas ce que c'était. Le Royal Albert Hall, c'est quand même toutes les grandes stars ont passé là. Hein. Royal Albert Hall, tout ça. Donc, c'est le 1er janvier 1973. Là, il y a 7000 ou 15000 personnes, je ne sais pas, la salle, elle est comble. Alors, on est dans toutes les villes, il y a du monde, c'est ça, le catch. De ce temps-là, on pouvait gagner notre vie, hein. Attention, c'était même en Belgique. Hein. Donc, de là, dans ce délire, je m'accepte et tout ça. Mais je travaille à Cockerill. Et là, des fois, j'allais aussi en France. Je partais le vendredi, hein, après, je travaillais 6-2. On allait en France. On s'arrêtait à Lille, on faisait un match à Lille, on descendait sur Paris. Le samedi, on faisait quelque chose tout près de Paris ou un peu loin de Paris. Le dimanche, on faisait Paris, hop, on revenait. Et le lundi, j'allais retravailler à l'usine. Les anciens, ben, il y a eu Grand Vladimir, les Matassa, ben, tous ceux qui m'ont appris dans un sens, là, je respecte. C'était une autre époque, ça, c'était pas la même chose que maintenant, bien entendu. Matassa, il était marchand de glace, son neveu, hein, c'était le neveu, donc, il était là. Lido Peduti a travaillé à Cockerill comme. Il faisait des moules pour les pour des pièces là. Nino Biondolino, il était soudeur à Cockerill. Michel de Bizière, lui, était entrepreneur dans les camions. Il avait son propre camion. Bilamé, que l'on appelait Bilamé, lui, il était portier au Maxime, c'est ça, à Liège. J'essaie de me rappeler tous ces noms. Et puis, il y avait le grand Vladimir avait un café à Chénet. Mais lui, en plus, il venait de la guerre. Il avait été prisonnier de guerre. Puis, il y avait Van Buiten, qui venait d'une famille normale. Parce que le catch, c'est un monde ouvrier. C'est maintenant que ça a changé. Mais le catch, c'était pour le public pas trop cher. Le catch n'était pas cher. Et c'était les gens aimaient bien venir voir des bagarres. Tu sais, tu pouvais pas aller à l'opéra. Ouais, c'était déjà des gens à l'opéra, au théâtre, tout ça. Hop, on venait au catch. J'étais assistant électricien, parce que j'ai pas de diplôme. Je suis pas gêné de le dire. Malheureusement, j'ai pas fini mes études. J'ai fait 4e année primaire, mais c'est encore une histoire. J'ai été à l'école. Ma mère m'a mis à 9 ans à l'école, donc... Quand je suis en première, et j'ai 9 ans, le professeur, celui-là, il est con, hein, mais il ne lui a pas expliqué que j'étais malade. Voilà. Ben, en étant enfant, comme je dis, on m'a donné un coup de pied à la jambe. Ma jambe a gonflé et j'ai eu une infection dans l'os. Et je me rappelle cette histoire parce que j'étais tout gamin, donc j'avais quoi, 5 ans, 6 ans, même pas. Je ne pouvais pas encore aller à l'école. Et qu'on voulait me faire opérer, couper l'os, tout ça. Parce que l'os, ça, pour ça, disons, était pourri. Et le docteur Van Bercy, qui m'a voulu me voir 20 ans après, il dit, tu peux pas faire couper l'os à ton fils maintenant, il est trop jeune. Il faut, c'est pour ça qu'il y a toutes ces petites cicatrices, c'est qu'il venait, j'oublierai jamais, il me tenait dans le lit à 4 personnes, il me tenait comme ça, et puis il faisait une incision pour sortir le pus. Sortir du pus de l'os. Alors il est trop jeune, si on lui coupe l'os, et au fur et à mesure, et il va grandir, il va avoir une jambe plus courte. Et ma mère m'a dit, parce qu'on lui avait dit, la m'amener en Italie, faire tchac. Et 20 ans après, le docteur a voulu me voir, il était fier que je faisais du catch, il a regardé ma mère, il dit alors, et donc, ma mère dit, vous aviez raison. Donc, dans un sens, c'était très paniquant pour moi, parce que je me rappelle, je voyais arriver les infirmiers, je savais pourquoi ils venaient. Ça faisait pas vraiment mal, hein, mais de la façon qu'ils me tenaient, parce que je voulais pas bouger, et, je veux dire, ça m'a donné du caractère, peut-être, je sais pas, ça m'a... C'était quelque chose que ça m'a toujours impressionné quand j'étais... Les hôpitaux, j'aime pas trop ça, peut-être pour ça.
C'est mou, hein? Tonton, c'est mou, ça, hein? Non, c'est pas... Il n'y a rien, là. Mais de l'action, au départ. De l'action. On bouge, on fait pas de prise pour se reposer. International! Allez, double international. Allez. Double, c'est l'autre qui l'a refait. 1, 2. C'est l'autre qui l'a refait maintenant. Hop, allez Toto, c'est l'autre qui court maintenant. L'autre contraire. Allez hop, on y va, double. Allez, couche. Toto, tu sautes. Lève-tasse. Maintenant tu prends une prise pour l'arrêter. Boum. Mais non, pas frapper, je t'ai dit une prise. Je t'ai pas dit de frapper, prends une prise maintenant. Là, tu... On continue. Allez, maintenant, on musique. Je vous suis. Il n'y a qu'une minute et vous êtes crevés, hein. Allez, Christophe, tu dois te lutter, tu dois te battre. Frapper de temps en temps. Yeah, bon, mais lui, enregistre tout le temps, enregistre seulement. Enregistre, voilà. Tu le reprends dessus. Hop. Toto, les gens, il y a du monde là, laisse-le, donne-lui le temps. Regarde un peu le public. Un peu. Voilà. Voilà. Donne-lui le temps qu'il va. Va vers lui maintenant, continue. Bah, allez. Christophe, tu vas prendre une chute là, allez hop.
Papa est venu en 1947, il est venu comme mineur. Et maman est arrivée en 50. Et moi, je suis arrivé en 51. Il ne s'avait pas vu depuis longtemps alors. Et je suis belge du cœur. Et papa a travaillé dans la mine 35 ans, maman était ménagère. Et je dois dire, c'est grâce à eux que j'ai pu faire ce que j'ai fait. Hein. Ma famille a été derrière moi, mes deux frères. Et voilà, maintenant, quand j'ai dit que je travaillais à Cockerill, j'étais assistant électricien. Hein. C'est-à-dire, de ce temps-là, s'il y avait un diplôme, on te donnait 25 francs, tu n'en avais pas, on te donnait 20 francs. Donc. Mais le 4, c'est que je vous ai dit, quand je suis allé à la foire, j'ai vu les mouvements. Je voyais la télévision, mais quand j'ai vu en vrai, c'était différent. C'était le catch, comme je dis, à la télé, c'est un truc, et quand vous allez en vrai, c'est pas, y a rien à faire, c'est pas la même chose. Mais même en étant jeune, peut-être avec cet handicap, on vous dit, s'il y avait des cours de gymnase à l'école, hein, on nous faisait sauter à la corde, tout ça, j'étais toujours premier, par exemple, deuxième. Mais en classe, j'étais toujours dernier, parce que je ne comprenais pas. Mais le sport, c'était quelque chose que je savais que je pouvais le faire moi. Je n'ai pas besoin, par exemple, apprendre à lire et écrire, je veux qu'on m'apprenne, mais je ne comprenais pas. Et s'il fallait sauter, mais il fallait sauter. Donc je crois que c'était un peu ça qui m'a donné un peu, quand j'ai vu le catch, ben, je peux sauter. Sans me vanter, j'étais très agile pour mon poids, pour ma grandeur, et sans avoir fait vraiment du sport avant. Ben, j'ai fait beaucoup de natation, on va dire, j'allais à la piscine, mais je n'étais pas dans le sport de natation. Je nageais tout le temps. Et je trouve que... Qu'est-ce que j'ai encore aujourd'hui dans mon cœur, c'est que j'aime dans le catch, c'est les mouvements du catch. La gloire, c'est pas ça. Le gagner, c'est pas ça. C'est que j'aime bien, c'est que le mec, il donne un tackle, tu tombes, tu te relèves, tu prends un bras de volée. Tous ces mouvements, je crois que c'est ça qui a été, pour moi, hein, je parle, mon succès pour moi, c'était que j'ai toujours aimé le catch, comme aujourd'hui, et qui m'a sauvé dans le sens, parce que certains promoteurs essayent de vous détruire, mais qui n'ont pas le choix de vous garder, mais qui essayent de vous démoraliser pour que tu partes, ou pour que tu... Mais moi, je disais, j'aime le catch. Je gagne, je perds, je m'en fous. Tant que tu me pêches, tu donnes tous mes doigts, j'aime le catch. Et j'ai eu des promoteurs, par exemple, ils me prenaient pour 10 jours. Ils disaient, voilà, 10 jours. Et il y avait 30 jours de tournoi, mais à la fin, je faisais les 30 jours. Parce que quand j'allais dans le ring, j'allais parce que j'aimais le catch. Et c'était ça un peu ma force.
Hé, hey Peter, j'aurais pu faire le travail, moi, hein. J'aurais pu faire, moi, ce que tu fais avec lui. Je t'ai dit de le fatiguer. Allez. Voilà. Des fois, il se joue aux heures, c'est ici.
Ils dorment après.
Ah, ils rentrent chez eux, oui. Je vais lui faire deux tours, hein. Deux fois. Là, il faut ça. Hein. Chris, tu fais de l'autre côté, toi. Le petit aussi. À toi, Chris, après. Hein. Tu fais 4-5 fois. Mais... Ça, c'est des entraînements qui font à la WWE. Mais surtout les... Allez, Chris, à toi, après. Mais plus vite, Toto, t'es fainéant là encore, hein? T'es à l'italien là, hein? Encore un. Toi le grand là, t'es fait ça après. Oui, oui. Alors, Chris, peux te faire à lui maintenant, vas-y. À lui, vas-y. Parce qu'il est plus petit l'autre, il est difficile. Allez. Allez, tout de suite, voilà, comme ça. Regarde Toto, comment il fait lui. Regarde ça. Il est nouveau lui, il est plein d'énergie encore. Allez, Johan, à toi! Ou alors, il y a un gros marteau. Vous avez vu le gros marteau qu'il y a?
Ah non, j'ai pas vu. Ah oui, là.
Et il frappe avec le marteau, là. Attendez, non. Le maillet, il est là, Toto, pour frapper.
Je vais trouver grand Vladimir. J'ai dit, écoute, voilà, j'ai des vacances. Est-ce que j'ai entendu dire qu'il y a des tournois en Allemagne? Parce qu'en Allemagne, c'est de ce temps-là, c'était 30 jours dans une place, 15 jours ici. C'était vraiment la chance d'avoir le meilleur du catch en Allemagne de ce temps-là. Il dit, c'est bien parce que le promoteur fait un offre qui fait 45 jours de tournoi. C'est 45 jours à la même place, hein, tous les jours, hein, dans une tente. Il y avait 4000 personnes tous les jours, hein, presque. Hein. Et Bielefeld, dans une tente aussi. Donc, il avait besoin des hommes, il avait besoin d'une équipe là-bas, Il dit, bah, si tu veux, tu viens. Je lui ai parlé. Il dit, écoute, je peux venir pour 7 jours. Donc, quand il y a des tournois à 30 jours comme ça, le promoteur prend 20 catcheurs, par exemple. Mais il va finir avec 12. Donc, il y a 8 catcheurs qui sont là pour perte, pour dire. Là, eux, c'est qui font du beau travail. Donc, moi, je vais là pour 7 jours pour aller faire mes matchs et puis rentrer, parce que moi, je veux faire du catch et tout. Alors, il me dit, ouais, il va te donner peut-être 50 marques ou 40 marques par jour. Que de ce temps-là, 50 marques, c'est 1000 francs belges. Hein. Donc, c'est en 73. Bon, je veux. Je vais m'amuser, ce que j'aime bien. Je rentre à l'usine et je vais gagner de l'argent. Bon, on part à Bielefeld. Et on fait 10 jours à Bielefeld. commence en 10 jours.
Regardez, chacun a sa face au rep, elle est gauche et lui. Ça, il triche. Ça, lui, il triche. Parce qu'il il relève. Voilà, voilà. Il triche. C'est à l'italien, hein, il n'y a rien à faire. Allez, qui le prochain qui va essayer? On prend, on frappe, on revient. Hein? Fais le tour bien. Non, tu essaies de faire comme Toto, mais t'es pas aussi malin. Andy, fais voir comment on fait. Allez, là, il va se faire mal, il va se faire mal.
Et de ce temps-là, on nous paye tous les jours. Alors, ils viennent avec leur livre, là, à ta page, ton nom, pop. Ils payent l'autre. Vladimir, Victor Roland, et l'autre nom, je ne saurais plus dire maintenant. Eux, ils gagnaient, un, ils gagnaient 35-40 marques par jour. Vladimir, lui, avait 40, parce qu'il y avait 2 ans qu'il était là. Non, Vladimir avait 50, et l'autre avait 40. Donc, moi, j'arrive, il dit, il va peut-être donner 30-40, parce que les nouveaux, c'est comme ça qu'on les paye. Vladimir, c'était la star, il avait 5 ans. Et j'arrive le soir, il paye tout le monde. Il me paye, il donne 100 marques. C'est des 1000 francs belges, ça, 100 marques. Bon, 100 marques, bon. Je dis aux autres, et puis, un qui me dit, c'est trompé, hein, qui dit, l'autre dit, oh, il a peut-être payé le voyage. Alors l'autre répond, hey, promoteur n'a jamais payé le voyage avant qu'on parte. Il dit, c'est pas vrai ça. Hein. Bon, on verra le lendemain. Hein. Vladimir dit, ah ouais, c'est drôle, parce que moi j'ai 50, t'as ça. Le lendemain, il revient avec son rien, puis tous les jours. Moi, je parle pas allemand, rien du tout. Je parle que le français, l'italien, là. Alors, je prends, hein, il demande sa puce, si c'est. Il dit, voilà, il dit, c'est 100 marques par jour. Ouais, qui dit, oui, lui, c'est 100 marques par jour. Hein. Hein, bah pourquoi? Ah, parce que j'ai besoin de lui. Comment ça? Ah oui, il faut qu'il reste, hein, il peut pas partir. Hein. Comment ça, il peut pas partir? L'autre, il me dit, m'explique, il dit, ah, ben moi, j'ai un travail, moi, il faut que je rentre à l'usine. Non, 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 qui dit, il faut qu'il reste, j'ai un Hanovre, il y a 40 jours à un Hanovre, puis j'ai 7 mois de travail l'année prochaine. 7 mois de travail, c'est-à-dire tous les mois. Bon, le mec, il me donne 2000 francs par jour, c'est facile, bien entendu. Hein. Bon, ben ça va. Donc, je suis parti pour 7 jours, et je suis revenu 33 ans plus tard. Voilà comment ça a commencé. De là. Mais j'ai fait, donc on a fait Bielefeld, puis on a fait Hanovre, 40 jours. On est tourné à Düsseldorf. Là, donc vous voyez, 2000 francs par jour, j'avais gagné plus que l'usine de 6 mois. Là, hein. Et puis pour me promoter, on m'envoie un contrat pour 7 mois de travail pour l'année après. Et là, il me donne 120 marques par jour. Alors, c'est comme ça. Puis on arrive à Hanovre en 74, il y a les Canadiens qui arrivent. C'était les Américains, un petit peu. On était, c'était une des plus grosses parades qui avait eu 35 catcheurs dans le ring qu'on était. Parce qu'en Allemagne, ils mènent tous les catcheurs dans le ring et on les annonce. On dit, mesdames et messieurs, ça va tomber le mot, lui, c'est une parade. Et là, j'ai rencontré des Canadiens. Et là, c'est encore une autre histoire.
J'ai perdu l'habitude de gagner sans effort, perdu la certitude. D'être le plus fort, je sens venir du sud la rage et l'arrogance de ces jeunes gens issus de cette nouvelle tendance. Ils me lancent un défi, comme on lance une lance dans le dos d'un ennemi. On mépris des convenances, mais loin des turbulences de ces chiens de faïence. C'est loin des foules en transe que je livre en silence. Le combat, mon combat le plus rude, le combat. Solitude. Si je détiens le titre, ce ne sont pas ces pitres qui me le reprendront. Rien ne tourne plus rond sur le ring aujourd'hui. On argue les champions, le spectacle en pâtit. Et ça, ce n'est pas bon. Et loin des turbulences de ces chiens de faïence, c'est pour une bataille, une toute autre importance, que je lutte sans faille en légitime défense. Le combat, le plus rude, le combat contre ma solitude. Nos deux corps se dénudent et nos muscles qui tremblent trahissent l'inquiétude d'être à nouveau ensemble. Elle et moi pour ce combat de malheur dont je ne crois pas sortir vainqueur. Elle et moi pour ce combat de malheur dont je ne crois pas sortir vainqueur. Le combat,
Dowen Wall. Il aime provoquer un petit peu. On voit qu'il n'est pas du tout apprécié à part le public ici présent agressé ce soir. Alors ça, c'est un total manque de respect, je suis désolé. Un total manque de respect pour son adversaire.
Est-ce que Joe Eddy va justement...
Et voilà. Il tombe en plein sur le coccyx. Attention. On a le petit coup ici à la Daniel Bryan. Exactement. Il manque plus que le petit yes et on y est. Tentative de tomber de la part de Joe Eddy. 1, 2. Simplement 2.
Simplement.
C'était presque 3. Joe Eddy va-t-il redemander l'appui du public pour essayer de...
Et là, je fais des connaissances. Hein, il y avait Johnny Warrigal, Billy Two River, il y avait Roy Callender, Monsieur Univers de ce temps-là. Il y a Gilles Poisson, il y a... Il y a tous ces Canadiens qui arrivent. Donc, c'est tout des... Il y a Dino Bravo, hein, qui était tous ces catcheurs-là qui arrivent. Et, mais j'avais toujours un petit problème, c'est que moi, j'ai jamais été culturiste. Donc, mes bras n'ont jamais été des gros bras. J'ai jamais eu des gros bras j'ai jamais pas le culturiste, c'est tout. Et puis, quand je m'entraînais, c'était un sport très ingrat. Il faut vraiment... Alors, quand ils arrivent, tous les Canadiens, tout le monde dit « Ah, ben, le monde, ta place, tu vas voir, tu vas la perdre. » J'avais ce challenge, même quand je m'entraînais, quand j'étais jeune, il y avait des catcheurs qui avaient des cours fantastiques, mais question de gymnastique, ils ne l'avaient pas. Donc, moi, j'avais... Et là, de fil en aiguille, bon, je connais les Canadiens, tout ça. Et là, dans un sens, je fais encore une histoire dans ma vie. Là, le jour que les Olympiques ouvrent au Canada, à vrai dire, moi, je pars du Canada. Parce que j'arrive juste avant les Olympiques, là, un peu, là. Et promoteur me demande, donc, les Canadiens me disent, tiens, tu peux venir au Canada. Et là, c'est à Montréal. Et je vais à Montréal. Là, il y a les Canadiens, tout ça. Il y a M. Ito qui est à Calgary. Donc, vous connaissez peut-être Bret Hart, la Hart Family. Ils ont une promotion à Calgary. Et un me dit, tiens, ce serait bien que tu viennes aller. On a besoin d'un nouveau visage. Et comme j'étais gentil avec eux, il a dit, tiens, je vais te faire venir là-bas. Mais à la dernière minute, il m'appelle, il dit, ah, parce qu'il y en a qui me dit, écoute, là, les Stewart Family, c'est tous des gentils. Toi, tu arrives là, tu es gentil. Ils n'ont pas besoin d'être gentil, ils ont besoin d'un méchant. Soit, mais je dis, mais moi, j'ai acheté mon ticket, tout ça. Alors, je dis, viens, on verra bien ce qui se passe. Hein, 350 par semaine, et voilà, tout ça. Et là aussi, voilà, quand j'arrive, il faisait moins 30, hein, des fois, là, c'était pas la même. Et là, quand j'arrive à Calgary, ben, j'ai eu un peu de difficulté parce que du fait que je vais faire le gentil, la famille, un des Hart Family, je ne dirais pas son nom, mais il dit, c'est pas Brett, il dit, je vais t'écraser. Ça veut dire, il va me faire perdre tous les soirs. Et il va me faire faire des petits coups, tout ce que. Et j'ai dit, je m'en fous, tu me payes pour, je lui ai dit. Alors il n'était pas content, moi, je lui ai répondu, parce que moi j'aimais bien faire le catch, je m'en fous. C'était mon but, c'est faire du catch. Ça va, je reste quand même, j'en ai un peu marre. Il y a Ricky Martel, le frère Michel Martel, qui me dit, mais faut pas te décourager. Et alors c'est lui qui m'a donné un peu confiance, comme vous me dites. Il dit, mais t'es européen. Qu'est-ce que t'as à foutre d'essayer de lutter comme un Américain? Lutte comme un Européen. Oui, tu veux frapper comme les Américains, tu sais même pas le faire. Fais ta manchette, reste européen. Il me disait, donc, il me donnait un peu le. T'as une certaine classe de ton côté, ne l'essaye pas de changer. Alors, et là, je voulais revenir, tout ça. Et là, il y a Jim Kenesky, qui est l'un des plus grands catcheurs que j'ai rencontré dans ma vie. Que j'ai fait le plus grand match de ma vie avec lui. J'ai fait 1h10 avec lui. Un match nul. Et bien, Jim Kenesky, il est à Vancouver. Et à Vancouver, il y a beaucoup d'Italiens. Il a tant parlé de moi. Que John Quinn, j'avais rencontré en Allemagne. Et je ne voudrais pas que John Quinn me dise, je t'ai amené ici, le reste, ça dépend de toi. Et c'est vrai, dans la vie, c'est comme ça. Et John Quinn dit à Gene, il y a ce gars-là qui est à Calgary, on a fait venir. Et Gene vient. Mais le mec, il a 60 ans, hein, de ce temps-là. Il est déjà, c'est un old-timer, comme on dit, hein. Et il dit, ah ouais, mais au moment même, moi, je ne comprends pas tout ce qui se passe. C'est après que j'ai compris tout ce manœuvre, hein, qu'il était venu pour me voir, moi, parce que le mec, il est à 60 ans, il n'a pas besoin de lutter, mais il se demande, il dit à Brett, au papa de Brett, hé, je viens lutter pour toi mardi. Lui, il venait même pour rien, hein, mais il était venu pour me voir. Alors, il me dit, on me propose $400 par semaine et venir à Vancouver. Mais à Calgary, c'était bien, mais ce n'était pas bien parce que il n'y avait pas de place pour moi, là. Hein. Ben, il va aller voir là-bas. Et hop, je vais à Vancouver. réponse. Je commence à Vancouver. Avant d'arriver à Vancouver, je vais au Japon, on va dire. Je vais au Japon. En 78, je vais au Japon. Donc, en revenant du Japon, hop, je vais à Vancouver. J'ai dit, écoute, je vais aller au Japon. Je finis le Japon. Quand je finis le Japon, je dis, là, donc je quitte Calgary, Japon. J'arrête à Hawaï pour les vacances. Puis je reviens, je suis à Vancouver. Et là, ça a été vraiment le... Comment je peux... Il y avait quelques Canadiens qui étaient venus en Allemagne, qui étaient là, hein, ils m'aimaient bien. Dire, c'est pas si important, ça aussi. Hein, si on ne t'aime pas... ils m'ont aidé dans le sens, hein, parce qu'il y avait un autre style de catch. Et puis, en Allemagne, on est 30 jours dans une même place. En Amérique, on me promet 3-4 000 dollars. Non, 3-4 000 kilomètres par semaine. C'est ce qu'ils disaient dans les réalités. 3-4 000, hein. Ah ouais, dollars. Non, kilomètres. On avait 300-400 dollars par semaine. Et Jim Kineski, il prend de sympathie. Et alors, on lui faisait, il venait venir les catcheurs. Et il faisait ses matchs. Et il gagnait. Puis c'était le champion de ce temps-là. Hein. Il était patron en plus. Hein, donc, hein. Et alors, match arrive. Jim Kineski, Salvatore Bellomo. Et il y a un mouvement. Il y a un peu du monde qui a des tickets un peu plus vendus que d'habitude. Et tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'Italiens. Et j'appelle Michel Martel, le frère. Et je dis, tiens, il y a Jim qui va faire un match avec moi. Et tout ça, et je suis assez nerveux parce que lui était... Ah oui, qui dit... Écoute, qui dit, il va te planter, il va, tu vas perdre. Ouais. Mais tu sais quoi, qui dit, demande-lui pour faire un match nul. Il dit, oui, qu'il aime ça, lui. Il aime les jeunes qui en veulent. Ah oui, ben, bah, ouais, qui dit, ouais, mais bah, demande-lui, tu verras bien. Bon. Ben, je suis un peu nerveux, alors il arrive, et le mec qui vient dans le vestiaire. Et j'ai dit, je serais intéressé de faire un match nul. Mais il parlait comme ça, lui. Ah, fais ma deux. En anglais, il fait, you think you can do it? Tu crois que tu peux le faire? Ben, il dit, écoutez, si je ne sais pas le faire, vous me plantez. Écoutez plus. Ah, good attitude, I like that. Well, we'll try it. OK. Mais je suis assez nerveux, hein, parce qu'il dit, mais dans un sens. Eh bien, là, ça a été, je veux dire, j'ai même encore des trucs quand je pense ce match. Donc, de sortir du vestiaire, monter dans le ring, et dans le vestiaire, on a mis 1h15 en tout. 1h10 en tout avant. Donc on a fait 1 heure, parce que les gens, on avait une grosse montre, on ne pouvait pas tricher. La montre était là, 1 heure, c'est 1 heure. Hein. Alors, les premières 30 minutes, c'était en général des matchs qu'on faisait d'habitude. On arrive dans les 40, 45 minutes, là. Mais lui, il est habitué, lui, là. Il connaît tout ça. Moi, c'est la première fois que je dépasse les 40 minutes. Mais c'est drôle dans la vie, après... J'en ai fait après des autres matchs, pas plus long. Mais après qu'on a passé les 45 minutes, on a un troisième wind qui vient. Et là on fait l'heure et tout ça. Alors, mais là, il reste champion. Moi, je ne suis pas champion. Hein, mais on fait le match. Bah alors, le public, parce qu'il y avait longtemps, ils n'avaient plus vu un match comme ça. Et là, l'autre me dit, you got the Jim the Champ. 3 mois après, je suis le Pacific Coast champion à Vancouver.
Rectangle, le podcast.